Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on poursuit votre série consacrée à Marlène Dietrich. Vous disiez hier que le grand amour de Marlène, c'était Gabin, bien sûr. Sur quel élément se fonde son biographe Jean-Paul Bled pour l'affirmer?
Jean Gabin, grosse vedette du cinéma d'avant-guerre, Quai des Brumes, Pépé le Moko, a rejoint Hollywood pour fuir la France de Vichy dont la lâcheté le dégoûtait. Il se précipita dans les bras de ma mère comme un navire égaré qui trouve son port d'attache, écrit Maria Riva, la fille de Marlène, dans ses mémoires. Elle l'installe à côté de sa propre villa. Elle lui cuisine des petits plats de son pays pour lui faire passer le spleen. Veau pané, pot au feu, il est le seul de ses amants qu'elle se dit prête à épouser. Mais lors de la bataille des Ardennes, elle fait la connaissance du plus jeune et du plus séduisant général de l'armée américaine, celui que ses hommes surnommaient Skin Jim, comme dans la chanson d'Eddie Cochran, James Gavin. C'est lui qui commandait le 505e régiment de parachutistes qui sauta sur Sainte-Mère-Église lors du débarquement. Jean Gabin, de son côté, s'est enrôlé dans les forces de la France libre comme simple sous-officier. Il finira d'ailleurs chef de char dans la 2e DB, participant au combat pour la libération de Royan, La Rochelle, Saint-Nazaire et Lorient. Il fait partie du bataillon qui prendra le nid d'aigle d'Hitler après le suicide du dictateur dans les ruines de Berlin. Et Gabin est très jaloux. Pourtant, après la guerre, les deux amants tentent de relancer ensemble leur carrière en France, où la presse annonce que la fameuse Marlène Dietrich songe s'établir pour de bon. Dans Martin Roumaniac, un film assez médiocre réalisé par Georges Lacombe, Gabin joue le rôle d'un brave entrepreneur en travaux publics qui tombe amoureux d'une jolie cliente étrangère, jouée donc par Marlène. Il la prend pour une femme du monde, mais découvrant qu'elle a un passé de prostituée, il l'étrangle. Le film fait un bide. Marlène déclare que sa carrière l'appelle aux États-Unis. Elle n'épousera pas Jean Gabin, mais lorsqu'il mourut en 1976, elle se déclara veuve. Alors qu'on la croyait finie, elle a dépassé l'âge fatidique de 45 ans, elle fait un comeback éblouissant dans un film de Billy Wilder, La Scandaleuse de Berlin. Elle s'est fait beaucoup prier pour jouer le rôle d'une ancienne nazie qui est parvenue à échapper à la dénazification en obtenant la protection d'un capitaine américain. Mais elle reprend pour ce film son emploi de chanteuse de cabaret, d'enjôleuse et de fatale séductrice, celui qui lui avait valu la gloire 18 ans plus tôt dans L'Ange Bleu. Billy Wilder a tourné plusieurs scènes d'extérieur dans le Berlin de l'époque, en grande partie détruit par les bombardements et les combats de 1945. Et le pianiste qui accompagne Marlène durant son tour de chant n'est autre que Frédéric Hollander, le compositeur qui avait déjà composé pour Marlène les chansons qu'elle interprétait dans L'Ange Bleu. Avec les chansons de La Scandaleuse de Berlin, Hollander, avec donc les chansons Black Market et Illusions, Hollander résume l'état d'esprit qui régnait à Berlin 3 ans après la fin de la guerre. Want to buy some illusions? Slightly used, just like new.
I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions. Some for laughs, some for tears.
Et alors, quels étaient, Brice, les rapports de Marlène Dietrich avec son pays natal après la guerre?
Eh ben, franchement, mauvais. Lorsqu'à 60 ans, elle renonce au cinéma pour s'en aller promener son tour de chant sur toutes les scènes du monde, il était inévitable que l'escale allemande soit au programme. En mai 1960, le Bild Zeitung publie des lettres de lecteurs qui toutes la condamnent comme traîtresse à son pays. Dans les 17 villes allemandes où elle doit chanter apparaissent des affiches proclamant « Marlène, go home ». À Düsseldorf, on lui crache dessus. Et sa tournée se termine devant des salles à demi vides. Le futur chancelier Willy Brandt, alors maire de Berlin-Ouest, sauve l'honneur en la recevant avec tous les honneurs possibles à la mairie. Lui-même, il a combattu dans la résistance anti-nazie en Norvège, il est donc bien placé pour comprendre et approuver les choix de sa compatriote. Dans son dernier grand film, Jugement à Nuremberg, réalisé par Stanley Kramer en 1961, elle interprète un rôle délicat, ma foi. La veuve d'un général de la Wehrmacht qui défend la mémoire de son défunt mari et tente de persuader les juges américains que les Allemands n'ont pas tous été des monstres. Un rôle d'aristocrate, arrogante et désabusée qui lui va à ravir, mais dont Jean-Paul Bled, donc son biographe, souligne qu'il ne correspondait nullement à ses propres opinions. Pour Marlène, ni l'armée allemande, ni la population civile ne pouvaient ignorer le sort des compatriotes que la police venait arrêter au petit matin, et elle l'a dit. Détail révélateur qui vous amusera, durant toutes ses tournées internationales du début des années 60, l'accompagne son arrangeur musical personnel, un certain Burt Bacharach, eh oui, le compositeur de Don't Make Me Over et Walk On By pour Dionne Warwick et de What's New Pussycat pour Tom Jones et puis de tant d'autres succès planétaires. Marlène Dietrich, perfectionniste, a toujours su dénicher les meilleurs talents du moment. Cette nouvelle biographie de Marlène par le germaniste Jean-Paul Bled vient donc de paraître chez Perrin.